Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment, 6 heures?
Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible, votre réveil culturel, préparé avec Anaïs Isbert et Pascaline Bonnet, réalisé par Thomas Duterre, avec aujourd'hui à la technique Michel Maistre. Tout le monde va bien, et pourtant nous sommes le vendredi 13 mai 2016. Dans un instant, nous retrouvons notre tête chercheuse de la semaine, le critique cinéma Frédéric Mercier. Depuis lundi, il nous parle des liaisons fructueuses entre le cinéma et la littérature. Aujourd'hui, on va parler de la bande dessinée à la rescousse du cinéma français. La bande dessinée, c'est bien sûr tous les vendredis dans l'émission Un autre jour est possible. Et aujourd'hui, aux alentours de 6h20, je reçois celui qui dirige les éditions Frémok et qui est aussi un auteur, Thierry Van Halsalt, pour Vivre à Frandisco, donc en deuxième partie. C'est parti, on peut le dire, moteur, ça tourne.
Cinéma et littérature, les liaisons fructueuses. Une série avec Frédéric Mercier.
Cinquième épisode, la bande dessinée à la rescousse du cinéma. Bonjour Frédéric Mercier.
Bonjour.
Alors avant de parler de des auteurs de bande dessinée adaptés au cinéma, quand eux-mêmes ne réalisent pas des films ou n'apparaissent pas dans des films. Je pense bien sûr à John Farr. Parlons de l'image de l'écrivain dans le cinéma. Comment est-ce que cette image a évolué ?
Elle est en train d'évoluer, mais à l'origine, il y a vraiment une image qui reste toujours. C'est celle, on va dire, de l'écrivain. C'est la figure romantique de l'écrivain. L'écrivain face au monde, l'écrivain seul, l'écrivain abîmé par le monde.
De préférence homme, de préférence blanc, de préférence alcoolique.
Oui, exactement. On va dire, par exemple, prenez Bukowski. Bukowski a été adapté plusieurs fois, a été plusieurs fois mis en scène au cinéma. Barfly, par exemple. Et il semblerait toujours qu'on ait toujours cette image un petit peu de l'écrivain rudoyé par le monde et qui ne parvient pas. Encore l'année dernière, il y a eu un film italien sur Leopardi, le grand poète et philosophe italien. On était exactement dans l'imagerie romantique. D'ailleurs, l'imagerie romantique était redoublée dans le film par des plans, des visions extraordinaires de paysages jusqu'à ce qu'à la fin, le volcan vienne se déverser alors qu'il est en train d'écrire son dernier poème.
Mais c'est pas toujours évident de représenter l'écrivain, surtout quand il s'agit d'écrivains connus, reconnus, lus, répertoriés.
Je pense que la difficulté avec le problème de l'écrivain, c'est de représenter le fait d'écrire. Comment représenter quelqu'un en train d'écrire? Alors on avait la figure dont on a déjà évoqué, de celui qui est enfermé dans sa chambre et qui tape à la machine et qui jette des papiers.
Mais ça, c'est Shining.
C'est Shining, exactement. Comment, à un moment donné, sortir de cette imagerie-là? Je pense, par exemple, que Olivia Assayas avait essayé Olivia Assayas, qui est aussi en compétition à Cannes cette année, quand, dans fin août, début septembre, on a encore la figure de l'écrivain qui est mortifié, qui est totalement dépassé par le monde et par ses ses amis, mais il y a peut-être une vitalité, des contradictions, des nuances, des ambiguïtés qui viennent un petit peu, je dirais, oui, va nuancer tout simplement cette image-là, au lieu qu'elle reste figée. J'ai vraiment l'impression que ça change ces dernières années. On parlait d'Alton Trumbo hier, par exemple. Trumbo dans le film devient vraiment une figure beaucoup plus. Ce n'est pas juste cette figure romantique qu'on peut l'avoir dans Bright Star aussi de Jane Campion. C'est quelqu'un aussi qui a totalement conscience de sa position et qui en joue un petit peu face au monde pour exister.
Est-ce que un écrivain est un intellectuel ou c'est un personnage, un aventurier, un misfit aux yeux des réalisateurs?
Alors, je pense aussi que ça dépend totalement des films. Oui, c'est généralement la figure de l'écrivain. Souvent, l'écrivain a des lunettes. Je veux dire, c'est un attribut cinématographique, visuel, qui indique soudain quelqu'un qui réfléchit. Mais non, on peut. Je pense qu'il y a des figures plus joueuses, moins. On n'est pas forcément dans le canon de ça. Par exemple, quand on parlait de Mishima avec Shredder, je pense que Shredder sort un petit peu de cette vision purement romantique de l'écrivain. C'est quelqu'un d'extrêmement bien habillé, extrêmement droit. C'est vraiment l'esthète. L'esthète, l'intellectuel, évidemment, on peut les rapprocher, mais il y a quelque chose dans son maintien, dans sa pose, dans son port à l'écran, qui rompt peut-être avec cette image de finalement du type courbé, du type courbé, et qu'incarne finalement Welbeck, encore le type encore complètement courbé, comme s'il avait toute la misère du monde sur ses épaules.
Alors vous, qui êtes l'auteur d'un ouvrage édité par Séguier, Les écrivains du 7e art, Frédéric Mercier, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les écrivains qui ont été le plus adaptés au cinéma?
Ben je pense que c'est Conan Doyle d'abord. Il y a énormément d'adaptations de Sherlock Holmes à travers les époques, jusqu'à des séries télévisées aujourd'hui. Simenon, évidemment, et pas seulement Les Maigret. Et puis Stephen King, qui continue encore d'être adapté au cinéma. Il y a même, en ce moment, une nouvelle série télévisée adaptée d'un des derniers romans de Stephen King.
En cherchant un peu, même Agatha Christie doit être...
Il n'y en a pas tant que ça, des adaptations d'Agatha Christie. Moi, j'en connais 5-6. Alors évidemment, vous avez adapté Agatha Christie, aussi en série télévisée, puisque les aventures de Miss Marple, les aventures d'Hercule Poirot. Mais les adaptations franches d'un roman d'Agatha Christie, j'en connais pas tant que ça.
Voilà, et tous ces exemples, bien sûr, concernent un peu le monde occidental. Par exemple, dans le monde arabe, Naguib Mahfouz a été adapté par pratiquement tous les grands réalisateurs égyptien. Alors, on passe maintenant aux auteurs de bandes dessinées qui sont très très demandés ces dernières années. Donc, la BD à la rescousse du cinéma français, c'était bien sûr pour rendre hommage tout à la fois à Julie Marot qui a écrit la vie, qui a écrit l'histoire. Le bleu est une couleur chaude qui a été adaptée par Abdel Kichiche et c'est devenu La vie d'Adèle, Palme d'Or. Je pense bien sûr au film de Sfar, au film de Riyad Satouf, mais aussi à d'autres adaptations de super-héros de la bande dessinée. Généralement, la bande dessinée et le cinéma, ça marche ensemble? Pas toujours.
Ça marche ensemble, pas toujours. Et puis c'est de plus en plus récent, on va dire, les liens entre la bande dessinée et le cinéma. Le problème, quand on regarde un petit peu ce qu'il y a eu d'adaptation de bande dessinée au cinéma, c'est qu'on tombe un petit peu dénu. Il y a quand même très très peu de grandes adaptations pour l'instant de bande dessinée au cinéma. Vous parlez de l'adaptation qu'a faite Kechiche du Bleu est une couleur chaude. Oui, effectivement, Kechiche n'a repris finalement que la trame pour faire un film de Kechiche, ce qui l'intéressait étant à mon avis plus quelque chose de l'ordre des luttes sociales ou des divisions entre classes, oui. Mais il y a des choses très intéressantes. On parlait dans la première émission du problème de l'adaptation, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne adaptation? Moi, j'ai toujours considéré, par exemple, que ce qu'a fait Steven Spielberg ces dernières années avec Tintin était très, très intéressant. Non pas parce que Spielberg avait adapté de façon extrêmement fidèle Hergé, mais parce qu'il en avait vraiment fait un film de Spielberg. Ça veut dire que ce qui, lui, devait l'intéresser était peut-être une certaine fluidité dans la ligne claire. Et il a réussi, par des techniques d'animation modernes, à faire un film d'une fluidité extraordinaire qui va extrêmement vite, où on voit les objets qui deviennent autre chose. Dans le film de Spielberg, vous avez une grue qui devient une maison. Une maison qui se transforme soudain en étoile, des cotillons qui se transforment en astres. Et il y a quelque chose vraiment de l'ordre, quelque chose de cinématographique dans le film de Spielberg qu'il a su prendre à la bande dessinée.
Aujourd'hui, la bande dessinée, les auteurs de bande dessinée sont très demandés par les producteurs de cinéma.
Oui, pour de bonnes et de mauvaises raisons, en fait.
Ah bah, commençons par les bonnes, allez.
Oh, bah les bonnes, parce qu'il y a quand même des ouvrages extraordinaires qui sont simplement qu'on a envie d'adapter. On a vu par exemple Quartier lointain
de Taniguchi, ouais.
Voilà, qui est considéré comme un grand ouvrage, on va dire, du roman au manga, qui a été adapté plus ou moins bien au cinéma. Voilà, donc il y a de plus en plus d'ouvrages. La bande dessinée aussi, on sait, est de plus en plus lue, et il y a de plus en plus de livres qui sortent. Donc évidemment, il fallait qu'à un moment donné, les producteurs lorgnent un petit peu de ce côté-là. Mais quand je voudrais vous parler plutôt des mauvaises raisons, c'est-à-dire les mauvaises raisons, il semblerait que aujourd'hui, quand on cherche un peu une avance au CNC, on dit qu'on a déjà un scénario tout fait avec un plan de travail à partir du moment où une bande dessinée existe.
Ouais.
Et donc comme ça,
le découpage
ça permet...
en plus, ouais.
Le découpage. Mais tout ça, ça procède finalement d'une forme de déconsidération à l'égard de la bande dessinée. Comme il y a eu longtemps une déconsidération des littérateurs ou des écrivains à l'égard du cinéma, pendant de nombreuses années, Gide par exemple, qui avait beau dire qu'il aimait les grands films sériales, les burlesques, qui avaient quand même une façon de hiérarchiser encore les disciplines. De la même façon, aujourd'hui, on va chercher une bande dessinée à partir du moment où elle a été écrite, où il y a quelques dessins, quelques découpages qui sont déjà faits. À partir du moment où c'est écrit, bon, on considère que c'est déjà fait. Donc on considérerait que la bande dessinée, ce serait le cinéma du pauvre par rapport... Ce serait déjà un art un petit peu moins important que le cinéma. Donc il y a encore des systèmes de hiérarchie qui semblent exister.
Et pourtant, le succès de John Farr, qu'il adapte ses bandes dessinées comme Le chat du rabbin, ou qu'il décide de se lancer dans l'écriture d'une fiction, ou même Riyad Satouf, qui lui-même s'inspire de ce qu'il a pu faire en bande dessinée pour inventer des films de fiction. Dans les deux cas, on a deux réussites, c'est-à-dire deux bons films qui ont réussi au box-office.
Après, la qualité artistique, on peut en discuter assez longuement. Il me semble que dans le cas de Sfar, quand il tente par exemple de faire son film sur Gainsbourg, c'est assez intéressant. C'est un film assez étonnant, qu'on sort un petit peu des codes du biopic. Il y a des scènes d'animation qui rentrent à l'intérieur d'un film en prise de vue réelle. Donc je pense que Sfar a une certaine idée, appréhension, peut-être pas totalement aboutie, mais qui existe. Le cas de Riyad Satouf est peut-être encore un meilleur exemple, dans la mesure où Satouf a une vraie appréhension du cinéma, tout simplement. On revient toujours à ce qu'on disait tout à l'heure sur le problème de l'adaptation. Je pense que quand Satouf fait Jackie au royaume des filles ou Les Beaux Gosses, il réalise de bons films, tout simplement. C'est-à-dire des films qui ont leur propre langage, leur propre écriture, avec un montage qui est très particulier. On n'est pas encore dans cette idée d'adapter une bande dessinée de façon complètement littérale, en épousant le découpage qui n'est pas le même en bande dessinée que cinéma. Et j'aime beaucoup l'exemple de ce qu'a fait Yann Koonen avec la série des Blueberry, puisque à partir de deux intrigues, de deux albums de Giraud, il va vraiment faire un film d'abord qui est extrêmement personnel, mais il va s'approcher peut-être plus de Moebius que de Giraud. Ça veut dire, la dernière partie du film, c'est une longue transe sous drogue, donc on rentre dans un film complètement psychédélique qui n'a plus rien à voir avec la série des Blueberry, mais qui ressemble, on va dire, beaucoup plus à ce que Giraud, devenu Moebius, fera en bande dessinée. Et c'est en ça que l'adaptation de Koonen, qui a été très décriée, est peut-être assez intéressante, parce que on va dire qu'il y a un regard d'un cinéaste, un point de vue sur un auteur de bande dessinée. Et le cas de Moebius est aussi très intéressant, puisqu'il y a eu un documentaire il y a peu de temps où Jodorowsky expliquait qu'il n'avait pas réussi à adapter Dune comme il le voulait au cinéma, et parce qu'il ne peut pas faire Dune au cinéma, et ben finalement il fera l'incal avec Moebius, qui sera sa façon à lui de faire sa grande saga de science-fiction.
Le grand Jodorowsky, qui sera à Cannes lui aussi, à la quinzaine des réalisateurs.
Oui, également, qui revient.
Merci beaucoup Frédéric Mercier d'avoir été avec nous cette semaine. L'intégralité de la série Les liaisons fructueuses entre le cinéma et la littérature est à retrouver sur franceculture.fr à la page de l'émission Un autre jour est possible.
Un autre jour est possible, par Toufik Hakem, tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel.
Et comme tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée. Aujourd'hui, je reçois un Bruxellois, Thierry von Hassalt, bonjour.
Bonjour.
Alors, bande dessinée et art contemporain ou art brut, c'est comme vous voulez, mais l'important, c'est d'être embarqué dans ce drôle de projet, un projet fou, un projet tout beau. Franc Disco, c'est le nom d'une ville, de rêve, un rêve de ville plutôt, une utopie urbaine faite de briques et de brocs, de scotch et de carton, avec des rues, des monuments, des maisons, des gens qui travaillent, qui y vivent, un ensemble harmonieux où l'on retrouve dans une nouvelle logique quelques pièces familières, par exemple la tour de Pisée là, les tours jumelles du World Trade Center aussi, et d'autres qui le sont moins, comme cette église-piscine, sans doute pour se faire bénir rapidement. On peut voir donc la maquette de cette ville imaginaire en ce moment. Elle est exposée à la Fondation Vassarelli à Aix-en-Provence. Et on peut la voir jusqu'à quand d'ailleurs ?
Jusqu'au 21 mai. La clôture de l'expo, c'est pendant la nuit des musées à Aix-en-Provence.
Donc il faut la voir. Alors art brut, art outsiders, peu importe. C'est une œuvre d'art, ça c'est sûr. Une création artistique, une projection poétique. Et ce projet de ville en carton a été réalisé par Marcel Schmitt, artiste trisomique, et vous-même, Thierry von Hassalt. Il y a même un livre, une bande dessinée, on peut pas l'appeler ça une bande dessinée, oui, puisque... Alors cette bande dessinée raconte la vie dans cette ville imaginaire, mais aussi comment a été conçu ce projet.
Voilà. Tout à fait. Donc en fait, c'est une collaboration que j'ai fait avec Marcel Schmitt, qui est un artiste trisomique, qui travaille à l'AS Grand Atelier, qui est un centre de création pour artistes mentalement déficients. C'est un artiste qui est complètement autonome. Il a commencé à créer sa ville par lui-même. C'est un projet qu'il a initié parce qu'il est très très intéressé par l'architecture et par l'urbanisme, on va dire. Donc il a commencé à construire cette ville en carton, en scotch, en broderie, en gravure, en mêlant un peu toutes les techniques qui lui étaient possibles de pratiquer dans ce centre. Et il a commencé à construire cette ville, et j'ai vu se construire les premiers bâtiments, comme par exemple l'usine de Chicon. Les Chicon en Belgique, c'est les endives ou le tunnel église. Et par exemple, le tunnel église, c'est un tunnel qui permet de prendre vite une petite bénédiction avant de partir en vacances. On passe dans le tunnel en voiture et voilà, c'est fait. On ne doit pas traîner une heure à la messe. La bénédiction est faite. Et donc, chaque bâtiment qu'il construit a une histoire comme ça, un peu farfelue, qui vient du télescopage de deux idées, comme vous disiez aussi, la piscine-église, c'est un peu le même principe, ou l'usine de Chicon, où les ouvriers travaillent tout nus. Donc, chaque bâtiment a une histoire qui est un peu... qui est très poétique et rigolote. Et donc moi, j'ai voulu finalement faire une bande dessinée qui raconte ces histoires qui naissent en même temps que Marcel construisait sa ville. Et j'ai voulu aussi, par la bande dessinée, lui permettre de vivre dans sa ville, puisque moi aussi, je peux le remettre à l'échelle de sa ville et le faire exister dans sa ville, dans le récit.
C'est-à-dire que dans cette bande dessinée grand format éditée chez Frémok, le Marcel Schmitt est aussi co-scénariste avec vous?
Oui, c'est...
Comment vous avez travaillé ensemble? Parce que ça...
Donc l'idée, c'est qu'on travaille au maximum en résidence. Donc on vend l'exposition à un lieu et on est avec l'exposition. Donc on travaille durant l'exposition. Cette exposition a déjà eu lieu chez Agnès B, à Paris, au Théâtre Forum Mérin à Genève, puis à Charleville-Mézières. Et chaque fois, on a travaillé ensemble dans l'expo. Lui, il fabrique sa ville et moi, je fabrique ma BD. Et
donc, rigole quand vous dites Charleville-Mézières parce que ça me renvoie au Tchernobyl-Mézières du livre.
Ouais. Voilà. Donc il y a deux choses. Il y a que chaque fois ces lieux dans lesquels on passe pour travailler inspirent à Marcel des nouveaux bâtiments, comme effectivement la médiathèque de Tchernobyl-Mézières, comme le NH Hotel de Genève. C'est finalement ces expériences de vie qu'il fait quand on est en résidence qui vont intégrer la ville et aussi évidemment contaminer le scénario. Donc on travaille ensemble, c'est une espèce de jeu de ping-pong. Moi, je tire le fil de l'histoire de cette ville, je lui pose des questions et lui me donne des réponses que je réinterprète. Et donc, quelque part, qu'il lance les actions, elles deviennent un peu autonomes. Et puis moi, je lui dis ce qui se passe. Finalement, s'il a lancé le sous-marin en l'air et l'hélicoptère et qu'il y a un accident, il faut qu'il m'explique ce qui va se passer après. Donc finalement, le scénario, c'est pas lui qui l'a fait, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est un dialogue entre nous deux sur qu'est-ce qui se passe dans cette ville suite aux événements qu'on y a déclenchés.
Voilà. Et qu'est-ce que vous avez utilisé comme matériau pour faire cette bande dessinée ?
J'ai utilisé un Rotring 018. Ouais,
mais donc, pas seulement justement, parce qu'il y a un jeu sur le blanc, la couleur.
Ouais, il y a comme ma contrainte était de faire tout d'après nature, donc c'est du dessin d'observation quasiment pour tout. Je suis devant cette maquette et je la dessine. Et quand Marcel intervient, je le fais poser, je le dessine aussi. Donc j'ai tout dessiné avec cet outil qui était assez neutre, le Rotring, un outil d'architecte en fait. C'est pour ça que je l'ai utilisé. Et comme je fais pas de crayonné et que j'y vais directement, je me plante quand même assez bien. Et donc du coup, il y a pas mal de correcteurs du Tipex, enfin c'est du correcteur blanc que j'ai voulu laisser apparent parce que je pense que c'est important là, qu'on sente ce dessin en train de se chercher, de se tromper, de revenir. Et donc je voulais aussi que le trait soit le plus minimal possible, qu'il y en ait le moins possible pour laisser l'imaginaire du lecteur pouvoir reconstituer cette ville comme si c'était une ville et non plus comme si c'était une maquette. Et donc voilà, je laisse le correcteur apparent. Donc il y a le papier jaune, le trait est noir, le correcteur est blanc, et puis il y a des traces de collage que j'ai fait à partir de dessins que Marcel m'a fait pour des personnages ou des sujets qui n'étaient pas possibles de dessiner d'observation, comme Saint Nicolas, les enfants de cœur, les communiants, un tas de personnages que Marcel ou MacGyver, un tas de personnages que Marcel a voulu qui a voulu qu'ils interviennent, qu'ils viennent vivre dans sa ville et qui participent à la grande action festive qui s'y déroule.
Alors comment travailler sur deux narrations très différentes, parce qu'on a la ville Frandisco et la vie dans cette ville imaginaire, mais il y a aussi l'histoire de ce projet, de ce livre qui est contenu dans le même livre.
Ouais. C'est assez vite, je me suis rendu compte que ce projet, finalement, il y avait quelque chose qui est l'existence lui-même, l'œuvre, et que quelque part l'œuvre, elle va conditionner ou changer ou émanciper la vie de Marcel, puisque grâce à cette œuvre, lui il va pouvoir se rendre à Paris, se rendre à Genève, se rendre à Charleville-Mézières ou à Aix-en-Provence à la Fondation Vasarely, toute chose que sa condition d'artiste mentalement déficient en dehors de ça ne lui serait pas accessible ou possible. C'est pour lui maintenant vraiment un moyen génial de quitter le foyer et de vivre des aventures beaucoup plus extraordinaires que celles auxquelles son quotidien l'habitue tous les jours. Et donc finalement, ce qui se passe dans cette ville et ce que cette ville permet à Marcel, c'est ça que je voulais raconter. Donc il y a des allers-retours entre ce qui se passe dans la ville, mais aussi ce que cette ville va permettre à Marcel de vivre. Et les deux sont intrinsèquement liés, sont une sorte d'intérieur et d'extérieur, puisque par exemple dans la ville maquette, il y a l'hôtel, le NH Hôtel de Genève, qui est une réplique ou qui est inspirée par le NH Hôtel dans lequel nous vivions quand on était en résidence à Genève. Et donc comme c'est une maquette et que dans cette maquette il y a que de l'extérieur, il y a pas dans les bâtiments en maquette, il y a pas d'intérieur. Moi j'ai fait l'intérieur devient ce que nous vivons à l'intérieur du vrai NH Hôtel. Donc quand on se promène dans la ville maquette, c'est l'architecture de la maquette, et puis tout d'un coup on rentre à l'intérieur de ce bâtiment et là on est dans la vie que Marcel et moi vivons dans cet hôtel, contaminé aussi par tous les autres personnages qui ont investi la ville imaginaire de Marcel, comme les enfants de cœur, les communiants, etc. Voilà, donc il y a toujours un aller-retour entre ce qu'on vit et ce qu'on pense qui doit exister dans cette ville.
C'est pas seulement imaginer une ville, ce qui est fait à travers votre travail avec Marcel Schmitt, mais c'est d'imaginer une autre société, une autre vie, avec d'autres métiers, d'autres manières de vivre en société.
Oui. Oui, c'est pas très approfondi.
Oui, mais il y a suffisamment d'éléments pour qu'on soit un peu interloqué en disant ah oui, on peut vivre comme ça.
Il y a une certaine normalité. On vit, on se promène dans cette ville et on est confronté ou on accompagne la vie quotidienne de cette ville avec effectivement des choses un peu farfelues qui s'y déroulent. Donc on peut passer du touriste au plongeur avec toutes ces questions aussi de religion, de city. Il y a une espèce d'énorme parade qui parcourt la ville. Oui, effectivement, on est baigné dans une ville qui a l'air qui est autonome, qui a sa propre vie, dont on ne comprend pas forcément tout.
Et ce livre, à défaut de pouvoir aller voir l'exposition à Aix-en-Provence, le livre, vous pouvez le trouver un peu partout, dans les bonnes librairies spécialisées en bande dessinée, parce que ça reste une bande dessinée quand même. Qu'est-ce que vous pensez, Thierry?
Mais moi, je ne fais que de la bande dessinée. Allez, c'est une bande dessinée assez libre, mais c'est de la bande dessinée, oui.
On passe à la dernière séquence de l'émission, c'est le questionnaire avec Thierry Van Hasselt. Première question.
La dernière expo visitée. Eh bien, je viens de la Maison Rouge où j'ai visité l'expo Céramix, qui était vraiment très impressionnante et qui donne très envie de d'utiliser ce médium qui est vraiment super attirant pour les yeux.
Ouais, mais attention, hein, il n'y a pas qu'à la Maison Rouge que se déroule cette exposition, il y a deux lieux. Est-ce que ça vous a donné envie d'aller voir ce qui se passe du côté de Sèvres, c'est-à-dire la cité de la céramique?
Oui, oui, bien sûr, mais là j'étais pour quelques heures à Paris, donc j'ai commencé par ce qui était sur mon chemin.
Deuxième question.
Le dernier essai qui vous a secoué ou secoué vos certitudes? Alors là, je me souviens plus du titre. C'est un livre d'Isabelle Stengers qui s'appelle « Résister au chaos qui vient ». Ça, c'est le sous-titre. Et puis, un autre
ça
titre.
Ça parle de quoi?
Ça parle de ce qui est en train de nous arriver dans notre société, des politiciens auxquels on ne croit plus ou qu'on pense pas forcément responsables de ce qui nous arrive, des scientifiques auxquels on ne fait plus confiance non plus, et les entreprises qui nous dirigent avec ces deux-là. Et donc un peu effectivement c'est un livre qui date d'il y a une dizaine d'années et qui vient trouver une belle confirmation dans ce qui est en train de se passer en France et en Belgique avec les Nuits debout, par exemple.
Et puis enfin, troisième et dernière question.
La BD de l'année.
Vous lisez des bandes dessinées?
Ah oui, ça m'arrive. je pense que c'est le livre d'Olivier Scroen, Arsène, à l'association. Pour moi, c'est ce que j'ai lu de plus chouette cette année.
Pourquoi?
Bon, parce qu'il y a un propos politique autant qu'un propos sur le médium de la bande dessinée. Il y a tout. Bon, moi, je suis belge, donc il y a tout un rapport au colonialisme belge qui est très très fin et très très aiguisé, très 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 amusant aussi, mais en même temps bien bien ironique. Il y a une vraie poésie. Il y a aussi tout un rapport à l'art brut qui est un peu habituel dans le travail d'Olivier Scroen. Donc, je pense que c'est un auteur qui a vraiment un langage singulier, unique et super fort, avec un dessin magnifique et puis une atmosphère, un côté romanesque aussi, une certaine ampleur, parce que c'est quand même un livre, je pense, près de 200 pages. J'étais complètement fasciné par ce livre.
Merci d'être passé ce matin, Thierry Van Hasselt. Comment ça va, Bruxelles, aujourd'hui? Ça va bien?
Toujours. Ouais, moyen.
Ouais, toujours sous le choc.
Oui, sous le choc et puis sous l'emprise de forces politiques dont on n'est pas forcément convaincu.
Générique de fin, à vous de jouer.
C'était un autre jour est possible, le réveil culturel matinal de Tewfik Hakem, diffusé tous les jours de la semaine à 6h du matin et qu'on peut écouter quand on veut via le podcast ou l'écoute en ligne de l'émission, disponible sur franceculture.fr. Un autre jour est possible est une émission préparée avec Anaïs Isbert et Pascaline Bonnet, réalisée par Thomas Duterre, avec aujourd'hui à la technique Pierre Mine.
Merci beaucoup, passez un excellent week-end, j'espère vous retrouver lundi.